Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez, outre ces podcasts, retrouver Conflit en kiosque avec actuellement un dossier sur la géopolitique de l'alimentation ainsi qu'un hors-série qui est consacré au programme du bac des élèves de terminale. Et puis, nous avons le 15 octobre un hors-série qui paraît sur l'aviation militaire et notamment une réflexion sur les évolutions de la stratégie militaire pour demain à l'échelle des 20 prochaines années. Nous allons rester cette semaine dans le cadre de la stratégie, de la réflexion militaire aussi, pour évoquer un ouvrage qui est assez original, parce qu'il actualise la pensée d'un militaire et d'un chef d'État qui est celui du général de Gaulle, mais qui est traité justement à l'aube des questions militaires d'aujourd'hui. Pour en parler, je reçois le général Nicolas Le Nain. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes général de l'armée de terre. Vous êtes passé par Saint-Cyr et l'école de guerre et vous avez exercé plusieurs responsabilités au cours de votre carrière militaire. Et vous venez de publier un ouvrage qui est assez original, même extrêmement original, qui s'appelle « À coup d'épée », dans lequel vous reprenez l'ouvrage connu du général de Gaulle, où vous en gardez la carcasse, à savoir le plan, et vous en avez complètement changé la chair, puisque vous avez repris différentes citations du général de Gaulle dans ses discours, dans ses textes, tout au long de son activité politique et économique, pour réécrire l'ouvrage, mais uniquement avec des citations du général. Donc c'est un exercice de composition où c'est vous qui écrivez, mais avec les propos et les morceaux de texte et de pensée conçus par un autre. Ce qui fait un ouvrage assez unique en son genre, qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Alors pour nos éditeurs, évidemment, toutes les références peuvent être visibles sur le site internet de Conflit. Pourquoi avoir composé un tel ouvrage et comment est-ce qu'on organise cet ouvrage, ce qui suppose par ailleurs une très bonne connaissance de l'œuvre de celui qu'on est en train de traiter?
Alors la genèse de cet ouvrage, elle est assez ancienne, elle remonte à 1996, lorsque j'étais capitaine au 27e bataillon de chasseurs alpins Annecy, et lorsque le président de la République, Jacques Chirac, a décidé de suspendre la conscription et de passer à une armée entièrement professionnelle. Et à ce moment-là, l'ordre nous avait été donné d'accompagner un certain nombre d'élus locaux pour expliquer, représentants de la nation donc, pour expliquer dans les principales localités de la Haute-Savoie, pourquoi on allait passer d'une armée de conscription à une armée de métier. Et dans ces terres gaullistes affirmées, et dans lesquelles le citoyen soldat est quelque chose d'important, puisque dans les Alpes, il y a beaucoup eu de maquis, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les Glières, le Vercors, le 26e BCA a joué un rôle important dans le maquis des Glières, en donnant l'ossature du maquis, avec notamment Tom Morel et le capitaine Angeau. Et donc, souvent, dans ces réunions publiques, les élus locaux faisaient référence à l'ouvrage de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, « Vers l'armée de métier ». Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de savoir, finalement, si le général de Gaulle réécrirait, quelle sorte de « Vers l'armée de métier » le général de Gaulle réécrirait si il arrivait aujourd'hui.
Alors l'ouvrage est paru en 1934. Je vous rappelle le plan pour nos auditeurs parce que ça permet aussi de comprendre un petit peu la réflexion que vous avez suivie. Il y a deux parties, pourquoi, comment à chaque fois, point d'interrogation, et trois sous-parties, donc pourquoi unité, souveraineté politique et comment stratégie, dissuasion et commandement. C'est un plan qui, là aussi, donc interroge la manière dont l'armée est organisée et dont la guerre se fait. Rappelons que De Gaulle, à cette époque, est instructeur à ce qui est aujourd'hui l'école de guerre, mais qui à l'époque avait un nom différent. Donc c'était à la fois quelqu'un qui a la pratique du combat, puisqu'il a été soldat de la Première Guerre mondiale, et qui en même temps s'interroge sur la guerre, puisqu'il doit l'enseigner aux officiers qu'il a en face de lui. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois celui d'un praticien et de quelqu'un qui a réfléchi à son métier.
Alors le général de Gaulle, ce qui est très intéressant avec lui, et ce qui fait, je pense, une des raisons de la singularité de sa pensée, c'est que on peut considérer que déjà à cette période, mais tout au long de sa vie, il a été une sorte de stratège au sens où les Grecs l'entendaient, c'est-à-dire l'homme qui, le responsable qui dans la cité prépare la guerre et conduit la guerre. Et donc c'est à la fois le praticien et c'est à la fois le théoricien. Vous avez beaucoup de théoriciens de la guerre, donc Boffre, Mahan, Clausewitz pour citer les plus connus, mais ils n'ont jamais finalement était dans la position où ils n'ont jamais pu exercer les responsabilités du général de Gaulle, puisque le général de Gaulle, c'est un chef de guerre, même si on a parfois tendance à l'oublier. Il est lieutenant et capitaine pendant la Première Guerre mondiale, il est colonel et général pendant la campagne de France, il est chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il devient chef d'État pendant les guerres de décolonisation et la guerre froide. Donc, il a exercé tous les commandements possibles d'une guerre. Et donc sa pensée est à la fois celle d'un tacticien, celle d'un stratège et celle d'un politique. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la singularité de ce livre-là. Et déjà, dans Vers l'armée de métier, en fait, il est au secrétariat général pour la défense nationale, à cette époque-là, où il y reste pendant 6 ans, et il est déjà dans une position où il côtoie les plus hautes autorités de son temps, les plus hautes autorités politiques.
Et c'est assez unique dans l'histoire de France, parce qu'il y a eu très peu de cas où une même personne a été à la fois soldat, général, chef d'État. Alors bon, les rois avaient des fonctions militaires, mais c'était pas non plus le général au sens où l'entend aujourd'hui. Donc on a un cas unique aussi dans l'histoire de France. Peut-être MacMahon qui avait été général et chef d'État, mais enfin comme moins de responsabilité.
On peut dire que l'autre stratège au sens où les Grecs l'entendaient, c'est Napoléon, finalement, qui est à la fois chef de guerre et chef d'État, et qui lui, lorsqu'il est chef d'État, va vraiment faire la guerre. Mais mis à part ce cas-là, oui, je pense que c'est unique, oui.
Alors, ce qui est intéressant également dans la réflexion du général de Gaulle, c'est de voir comment l'outil militaire s'adapte à la fois aux évolutions techniques, et on connaît notamment son ouvrage pour la question des chars, et puis aussi aux évolutions politiques, puisque la guerre de 1940 n'a rien à voir au niveau politique avec celle de 1914. Comment est-ce que, ça aussi, vous le percevez dans la manière d'adapter la guerre, qui est quelque chose de très classique dans l'humanité, qui a toujours existé, et qui, en même temps, est extrêmement moderne, parce qu'elle doit sans arrêt s'adapter à de nouvelles configurations?
En fait, ce qui est intéressant dans la pensée du général de Gaulle, c'est que la pensée du général de Gaulle, la dimension stratégique de la pensée du général de Gaulle, en fait, elle repose sur deux idées forces et sur deux visions de la guerre. La première, c'est que pour le général de Gaulle, la guerre est consubstantielle de la nature des peuples et de l'histoire du monde. Il fait preuve d'une sorte de fatalisme. Et ce fatalisme, on le retrouve dans tous ses écrits, et notamment dans les 4 livres Antebellum, que sont La discorde chez l'ennemi, Le fil de l'épée, Vers l'armée de métier, et La France et son armée. Et la deuxième idée, qui est fondamentale, et qui m'amène à votre question, c'est que pour le général de Gaulle, la guerre est un phénomène vivant, en évolution permanente, et qui nécessite donc une adaptation constante de l'outil militaire pour la faire. Et Vers l'armée de métier, ça tourne autour de ça. Et en fait, et dans À coup d'épée, ça tourne autour de ça aussi. C'est-à-dire comment il fallait que, dans ce livre-là, je rende compte de cette évolution. Dans Vers l'armée de métier, pour le général de Gaulle, il faut adapter l'armée, il faut introduire le fait que le moteur à explosion constitue une rupture dans la stratégie militaire, offre enfin la mobilité que ne permettait pas la technique avant, et notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et dans À coup d'épée aujourd'hui, en reprenant donc ce qu'il a écrit entre 1940 et 1968, ce qui est au cœur de la stratégie, c'est la dissuasion nucléaire. Si aujourd'hui il reprenait la plume, je pense qu'il nous dirait qu'il faut investir pleinement, mais c'est déjà ce qu'on fait, dans le cyberespace et l'espace exoatmosphérique. Donc, l'adaptation de l'outil militaire à la guerre, c'est une adaptation permanente qui est tirée par le contexte politique. Quelle guerre va-t-on faire? Quelle guerre faisons-nous aujourd'hui, mais surtout demain? Et par les ruptures technologiques qu'offre justement le progrès technique.
Alors, ce chapitre dissuasion est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dissuasion, on pense immédiatement à la dissuasion nucléaire. On a été très formaté par la guerre froide et le discours qui a été développé. Évidemment, en 1934, c'est pas du tout à ça que pense le général de Gaulle. La dissuasion dans son esprit, qu'est-ce que c'est? C'est éviter une guerre de l'Allemagne, c'est éviter d'être attaqué, donc avoir une armée suffisamment forte pour dissuader les autres d'attaquer les premiers.
Je pense que dans son esprit, à l'époque où il écrit ces différents textes, je pense qu'il y a deux idées qui prévalent. La première, c'est que plus jamais la France ne doit subir une défaite militaire de l'ampleur de celle qu'elle a subie en 1940 et qui a provoqué des divisions très profondes au sein de la nation. Et donc, il faut disposer d'une arme qui empêche une telle défaite. Et je pense que la deuxième idée qui prévaut, c'est, et qui est un invariant de la pensée du général de Gaulle, c'est il faut préserver la souveraineté et l'indépendance nationale. Et la dissuasion nucléaire, c'est l'arme qui permet justement de préserver cette indépendance parce que c'est une arme qui n'est subordonnée à aucune autre autorité que celle du président de la République.
Alors justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre asymétrique, de guerre contre le terrorisme. Et donc, on voit évidemment que la manière de faire ces guerres est très différente de ce qu'on pensait pendant les années 70-80, pendant la guerre froide. Est-ce que l'arme nucléaire a encore une utilité aujourd'hui? Alors, la question est peut-être un peu abrupte, mais enfin, en tout cas, pour nos contemporains, elle se pose. Non, mais à quoi ça sert d'avoir dépensé autant de moyens dans le maintien de l'arme nucléaire, et alors qu'on nous présente les guerres actuelles comme n'ayant plus rien à voir avec celles qu'on a connues en 1940 ou pendant la guerre froide, et pour aller combattre au Mali, c'est pas de ce type d'arme-là dont on a besoin.
Et je pense que vous posez une question qui est légitime. Je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est incertitude. Alors on pourrait dire, oui, la dissuasion nucléaire, on est toujours le même travers des armées françaises, on prépare la guerre d'hier et pas celle de demain. Je ne suis pas certain que dans la guerre de demain, on n'ait pas besoin de dissuasion nucléaire. On est quand même en train d'assister à un délitement, ou en tout cas une transformation de la nature des alliances, et y compris dans le camp occidental, notamment au sein de l'OTAN, dont on voit quand même qu'il y a un certain nombre de tiraillements, que le président de la République a souligné d'ailleurs. Et donc, on ne sait pas demain de quoi sera fait la conflictualité. Le chef d'état-major de l'armée de terre rappelle souvent, et le chef d'état-major des armées également, que le retour à des conflits de haute intensité est loin d'être improbable, et qu'après une longue période au cours de laquelle on a été dans des guerres asymétriques, celles que vous nommez, et ça a été vrai en Afghanistan, c'est vrai au Levant, et c'est vrai aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne, rien ne nous dit que demain il n'y aura pas la résurgence de guerres interétatiques. Et même dans les guerres asymétriques, on constate un durcissement des conflits, un durcissement des opérations, avec un ennemi qui dispose de capacités qu'il n'avait pas autrefois. Alors évidemment, c'est sûr que quand on est au Mali, on peut se demander à quoi sert l'arme nucléaire. Mais moi, j'ai appris au cours de mes 30 ans de carrière qu'il ne fallait jamais dire jamais, vous voyez. Voilà.
Et puis, c'est vrai que même dans les conflits actuels, on se souvient, fin des années 2000, on nous présente, enfin plutôt début des années 2000, on nous présentait beaucoup de choses comme étant la fin de l'histoire, comme le fait qu'il n'y aurait plus de conflits. Et on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus conflictuel et l'armée française est beaucoup plus engagée sur cette théâtre d'opération aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20, 25 ans ou pendant la guerre froide. C'est aussi un changement auquel on n'avait pas pensé. En tout cas, on a dû s'adapter à cela.
On cherche toujours à toucher ces fameux dividendes de la paix dont on nous avait annoncé qu'ils allaient venir une fois que le mur de Berlin était tombé. Et je crois que, une fois de plus, Le général de Gaulle a raison. C'est-à-dire que l'histoire du monde, c'est d'abord l'histoire des nations, c'est l'histoire des peuples, et cette histoire ne s'arrête pas. Et elle ne peut pas s'arrêter tant que le monde sera organisé autour de nations. Et donc, c'est pour ça que la guerre, le phénomène de la guerre, je pense, en tout cas je rejoins moi l'opinion du général de Gaulle, elle est consubstantielle de la nature des peuples, même si Dieu merci, aujourd'hui, le droit international, peut-être une certaine sagesse tirée de l'expérience des guerres passées, font que les guerres sont moins nombreuses et moins meurtrières que celles qui ont pu avoir au XXe siècle. Mais je crois qu'on ne peut préjuger de rien. On ne peut préjuger de rien, il suffit de voir les tensions aujourd'hui en Méditerranée pour dire que... pour éviter de croire que... les guerres de demain seront celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des guerres de basse intensité.
Alors vous dites que vous avez commencé à réfléchir, à travailler à ce livre au moment où on est passé de la conscription nationale à l'armée de métier, justement. Or aujourd'hui, la disparition notamment du service national fait qu'il y a une grande partie de la population pour lesquelles l'armée est un monde complètement inconnu, puisqu'ils n'ont même pas eu le contact de ces quelques mois, ce qui fait que expliquer la chose militaire devient de plus en plus compliqué pour des gens pour qui c'est un monde vraiment à part. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, et on va revenir justement à cet ouvrage du général de Gaulle, arriver à faire cette unité et à comprendre à quel point l'armée est un élément important de la nation, non seulement pour assurer la sécurité première des personnes, mais aussi dans la fonction politique même, qui est le rôle du politique est d'abord de conduire la guerre et d'assurer la protection de sa population.
Alors d'abord, moi je pense que ça n'est pas parce qu'il n'y a plus que le service national a été suspendu. Il n'a pas été supprimé, il a été suspendu. Donc c'est important de le savoir. Ça veut dire que s'il a été suspendu, peut-être qu'un jour, à la faveur des circonstances, il pourrait être remis en activité. D'ailleurs, quand vous vous intéressez à l'histoire des armées françaises, vous vous rendez compte que il y a eu des périodes où il n'y avait qu'une armée de métier, et puis il y a eu des périodes où il y avait une armée de conscription. Donc, tout ça reste évolutif. Et je pense qu'il est important de se dire que les choses pourraient changer un jour. Peut-être pas à mon horizon visible à moi, peut-être à l'horizon de mes enfants ou de mes petits-enfants, mais rien n'est jamais gravé dans le marbre. Mais ça n'est pas parce que les gens ne font plus le service militaire que je pense que les Français n'ont pas conscience du rôle de leurs armées dans la résolution des crises et pour la défense des intérêts. Je pense que les armées n'ont jamais eu autant d'opinions favorables au sein de la population. Je pense au contraire qu'il y a une véritable attente des armées. Alors, il y a une véritable attente des Français. Et les Français souhaitent que leurs soldats soient présents autour d'eux, au milieu d'eux, pour les protéger, et que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Donc moi, je ne sens pas je n'ai pas l'impression que le lien armée-nation soit un lien distendu. Alors qu'on le craignait un peu dans les années au début de la professionnalisation. Et puis, il y a aussi un turnover important dans les armées. Les soldats ne font pas toute leur vie dans les armées. 75% des militaires sont des contractuels. Donc, ils étaient civils avant de devenir militaires et ils redeviennent civils une fois qu'ils ne le sont plus. Donc, il y a quand même des échanges entre la société civile et le monde militaire.
C'est avec des gens qui ont eu une expérience militaire et qui après...
Absolument, oui.
Alors, dans le civil, amène aussi une partie de ce qu'ils ont appris.
Tout à fait.
Il y a aussi le rôle de la réserve qui a été développé. C'est une manière d'assurer le lien entre la nation et l'armée.
Oui, et d'ailleurs, la réserve est un témoignage assez intéressant de l'attachement des Français à leur armée et de la conscience qu'ils ont qu'en cas de crise, l'outil militaire est là. Et notamment après les attentats de 2015... il y a eu un afflux sans précédent de jeunes Français pour s'engager dans la réserve. Donc je pense que cette conception, d'ailleurs, que le général de Gaulle a beaucoup mis en exergue au travers, notamment dans la France et son armée, où il dit « la nation se mire dans son bouclier », cette idée, elle reste très vivante dans la société d'aujourd'hui.
Ce qui est intéressant aussi, toujours dans ce rapport lien nation-armée, c'est que l'armée est une entreprise qui est extrêmement décentralisée. Il y a beaucoup de régiments dans des villes de province parfois de petite taille, ce qui contribue aussi à avoir un lien sur l'ensemble du territoire et pas seulement au niveau de la capitale. Donc ça contribue aussi à ce lien. On pense à Castres, par exemple, ou à Besançon. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de villes qui sont très unis à leur régiment de par l'histoire de celui-ci avec la ville, et ça contribue à forger ce lien.
Oui, et toutes les villes de garnison sont très attachées à leur régiment. Moi, j'ai eu la chance de commander le 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Pour les Annéciens, le 27, ça fait partie du patrimoine de la ville, ça fait partie de la vie de la ville. Toutes les prises d'armes ont lieu à l'extérieur du quartier, la passation de commandement a lieu sur le plus beau site d'Annecy, qui est le Paquier face au lac. Et y a toujours du monde pour venir voir. Donc, j'ai pas le sentiment que la professionnalisation ait amoindri le lien armée-nation, et je n'ai pas le sentiment que la professionnalisation fasse douter les Français de l'utilité de leurs armées.
Alors, si je reviens au plan du général de Gaulle vers l'armée de métier, il y a le premier chapitre qui est consacré à l'unité. Alors, on comprend évidemment dans ce contexte un peu compliqué des années 1930, avec beaucoup de dissensions politiques en France, et on l'a vu notamment après pendant la Deuxième Guerre mondiale avec une situation de quasi-guerre civile. En quoi, là aussi, si on actualise sa pensée et son texte, en quoi le rapport entre la nation et l'armée peut être un élément d'unité? Et également, en quoi l'unité est importante aussi pour avoir des armées qui soient opérationnelles et qui puissent gagner les guerres dans lesquelles elles sont engagées?
En fait, pour répondre à cette question, il faut revenir à Clausewitz et à sa remarquable trinité qui repose sur, finalement, trois volets. Clausewitz explique que pour gagner la guerre, il faut qu'il y ait cohésion entre l'État, l'armée et sa population. Alors, le général de Gaulle, il est clausewitzien, c'est-à-dire que, comme tous les officiers de sa génération, il a lu Clausewitz. Même s'il ne le cite jamais dans ses écrits, il le cite une fois, et d'ailleurs je l'ai remis dans le livre, hein, « La guerre est un drame passionné », en disant que c'est Clausewitz, sauf qu'il s'est trompé, c'était de Jomini. Mais c'est la seule erreur que j'ai relevée dans la pensée du général de Gaulle. Mais pour lui, il est évident que on ne peut pas gagner s'il n'y a pas un lien fort entre la population, son armée et l'État. Sachant que l'État doit être le garant, en tout cas dans un pays comme la France, de l'unité nationale. Je pense que cette idée, elle est encore au cœur du débat public. On l'a entendu récemment avec notamment le discours du président de la République sur le séparatisme. On l'entend depuis longtemps à propos de la fracture sociale. Donc c'est un vrai sujet. Et je pense que ça fait partie des invariants de la pensée du général de Gaulle. L'indispensable unité de la nation, l'exigence de souveraineté, et puis l'indépendance de l'outil militaire. Hein, c'est ce que rappelle d'ailleurs Hervé Guémard dans la préface qu'il a faite du livre. Et donc, et je pense que pour le général de Gaulle, il faut qu'il y ait unité parce que c'est la première des conditions pour la victoire.
On voit aussi, à travers cette question d'unité, une adaptation régulière de l'armée, alors certes aux nouvelles techniques, aux nouvelles donnes géopolitiques, mais on voit aussi dans son enseignement, récemment, il y a une réforme ou une adaptation des écoles spéciales militaires de Saint-Cyr. Il y a aussi une réflexion sur la formation des sous-officiers. Donc on voit que l'armée est aussi constamment en réflexion, en essai de s'adapter à la manière de former l'ensemble de ses soldats, sous-officiers comme officiers.
Mais l'armée, elle a retenu, là encore, une des leçons de la pensée gaullienne en matière de stratégie militaire. Le général de Gaulle écrit un texte en 1921 qui s'appelle « Préparer la guerre, c'est préparer les chefs ». Et dans ce texte-là, il y a en gestation tout ce qu'il reprend ensuite dans le fil de l'épée. Pour le général de Gaulle, il faut des chefs qui soient capables de commander au combat, de comprendre quels sont les enjeux de la guerre future. il écrivait « La meilleure école du commandement, c'est la culture générale ». Et donc, aujourd'hui, quand on adapte la formation de nos officiers à Saint-Cyr, quand on réfléchit à la façon de former nos sous-officiers à Saint-Mexant, on s'inscrit dans cette tradition d'avoir des chefs qui soient ouverts sur la société, qui comprennent quels sont les enjeux politiques et géopolitiques du monde. Pourquoi c'est important ? Parce que tout à l'heure, je parlais de la remarquable trinité clausewitzienne, en parlant de l'indispensable cohésion entre l'État, la population et son armée. Il y a aussi une remarquable trinité tacticienne qui fait que le chef militaire, c'est l'homme qui comprend quels sont les enjeux politiques, qui comprend quelles sont les capacités dont il dispose et qui comprend quels sont les modes d'action qu'il va choisir pour que tout ça soit parfaitement cohérent et avoir sur le terrain des effets militaires qui soient en rapport et en proportion avec les enjeux politiques en jeu.
Alors, il y a un chapitre également qui est consacré à la stratégie, chose évidemment indispensable et fondamentale quand on conduit une guerre. Est-ce que là aussi, l'outil militaire adapte la stratégie à la fois au type de guerre qu'elle veut mener, à la dimension géopolitique, à l'ambiance géopolitique dans laquelle elle est, et comment concrètement au niveau militaire on adapte cette stratégie? Est-ce que c'est au niveau du chef d'état-major des armées? Est-ce que il y a dans différentes écoles où la stratégie est pensée, adaptée?
La réflexion stratégique dans les armées, elle innerve à tous les niveaux, parce que finalement tout le monde est acteur de la stratégie. Donc il y a une réflexion du haut vers le bas et du bas vers le haut. D'abord, la stratégie, elle est réfléchie dans les états-majors centraux, à l'état-major des armées et dans les états-majors de chacune des armées, l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, l'état-major de la marine. Elle est réfléchie aussi dans un certain nombre de centres de recherche, à l'école militaire, à l'IRSEM, à l'école de guerre. Et puis finalement, elle est expérimentée aussi par nos soldats sur le terrain, au travers du retour d'expérience. Donc la réflexion stratégique, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, et en reprenant la pensée du général de Gaulle, parce que la guerre est quelque chose en évolution permanente. Ensuite, la stratégie, elle est conditionnée par deux choses. Elle est conditionnée par le contexte politique et géopolitique dont vous avez parlé. Le but étant de comprendre vers quel type de conflit on s'oriente. Est-ce qu'on va continuer à faire des guerres de contre-insurrection dans lesquelles on est depuis la chute du mur de Berlin? Ou alors la résurgence d'un certain nombre de menaces étatiques nous amène vers des guerres plutôt symétriques. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment, comme je le disais tout à l'heure, que les conflits de haute intensité ne sont plus des hypothèses, de simples hypothèses. Et puis, la réflexion stratégique, elle est aussi tirée par le développement des capacités, et notamment par les évolutions technologiques. L'irruption de l'intelligence artificielle, la robotique, la miniaturisation, l'hypervélocité, toutes ces avancées, tout ce progrès technique qui constitue aujourd'hui un certain nombre de ruptures qu'il faut prendre en compte pour conserver la supériorité opérationnelle.
Au cours de votre carrière, c'est à peu près une trentaine d'années que vous êtes dans l'armée, quelles sont les évolutions majeures que vous avez vues? Et également, quels sont les éléments, enfin, vraiment invariants que vous avez pu constater, ou indépendamment des événements, il y a des choses qui restent, qui sont l'invariant de la chose militaire?
Je pense que l'invariant de la chose militaire, c'est l'invariant de la tactique depuis que l'homme fait la guerre, on va dire, de façon rationnelle. Donc, probablement, à partir de la préhistoire, à partir du moment où l'Homo sapiens arrive sur Terre, je pense que l'homme, à partir du moment où il a fait la guerre, il a cherché trois choses. La première chose qu'il a cherchée, c'est la puissance de feu, la puissance de ses armes. Donc au départ, ce sont des armes de jet, et puis on invente la poudre noire, et donc on arrive à la puissance de feu. La deuxième chose qu'il a cherché à faire, c'est la protection, pour se mettre à l'abri des coups de l'ennemi. Et la troisième, c'est la mobilité. Donc au début, il fait la guerre à pied, puis il fait la guerre à cheval, en tout cas, ou sur des éléphants, et puis ensuite il invente le char, et puis arrive le moteur à explosion, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les trois invariants de la guerre. Moi, la rupture que j'ai pu connaître, je pense que le tournant dans la tactique, c'est deux choses. C'est d'abord la précision de l'armement, C'est la révélation de la guerre du Golfe, lorsqu'on découvre, au travers des frappes américaines, qu'on est capable de tirer depuis un avion un missile qui est capable de rentrer par la fenêtre d'un bâtiment. Je pense que c'est la première des révolutions. Et la seconde révolution à laquelle moi j'ai assisté, c'est évidemment la mise en réseau du combattant, la numérisation du champ de bataille. Ce qui m'a frappé quand je suis revenu au 26e BCA, que j'avais quitté 10 ans plus tôt, quand j'étais lieutenant chef de section, il y avait 4 personnes qui avaient la radio, c'était le chef de section et ses 3 chefs de groupe. Quand je suis revenu au 26e BCA, tous les soldats avaient une radio, tous les soldats avaient un moyen de vision nocturne, tous les soldats avaient des aides à la visée. Donc la révolution des affaires militaires à l'échelle de ma carrière, ce sont ces 2 points-là. La précision et la mise en réseau du combattant. La précision des armes et la mise en réseau des combattants.
Et on a des armes qui sont de plus en plus technologisées, de plus en plus techniques. On suppose aussi que pour organiser tout ça, pour être le chef d'enquête de tout ça, ça doit être aussi assez compliqué parce que entre une opération, les troupes au sol, la marine, l'armée de l'air, le commandement central, arriver à ce que tout s'organise bien, à ce que tout puisse se faire. On sait bien, enfin, on a tous l'expérience de la technique, que quand ça marche bien, c'est impeccable, mais que ça peut rapidement se gripper et que pour rien ne fonctionne. Comment est-ce qu'on arrive à ce que, justement, la complexité n'aille pas, ne vienne pas gripper l'ensemble du processus d'organisation?
C'est une question fondamentale que vous posez, dans le sens où, finalement, la clé de voûte de la supériorité opérationnelle, c'est la supériorité décisionnelle. Mais ça, c'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était à l'époque de Napoléon, par exemple. Pourquoi Napoléon surclasse les armées ennemies? Parce qu'il a une organisation d'état-major qui est supérieure à celle de ses ennemis. Jusqu'à ce que ses ennemis finissent par s'organiser comme lui. Il y a bien sûr l'invention du corps d'armée qui lui permet une mobilité, ainsi de suite. Il y a les canons de campagne qui lui donnent une puissance de feu, c'est vrai. Mais c'est d'abord la supériorité décisionnelle d'un homme qui a compris avant les autres comment il fallait faire la guerre moderne. Et aujourd'hui, c'est le même enjeu. Les opérations sont devenues extrêmement complexes. L'enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est comment on acquiert la supériorité décisionnelle qui permet de décider mieux et plus vite que l'ennemi. Moi, je commande un organisme qui est au cœur de cette problématique. Et cette supériorité décisionnelle, elle passe par des outils, l'appropriation de l'intelligence artificielle qui permet notamment de trier une grande masse de données et d'aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle décidera demain la place de l'homme, ça veut dire qu'elle lui permettra de décider plus rapidement. Et donc ça passe par là. Mais c'est vrai que celui qui n'a pas la supériorité décisionnelle ne peut pas avoir la supériorité opérationnelle.
En France, on a un système de commandement qui est extrêmement centralisé et pyramidal. Le président de la République est chef des armées, il y a le chef d'état-major des armées, donc ça doit faciliter aussi la prise de décision.
Alors c'est une fois de plus un héritage de la pensée du général de Gaulle. Dans la pensée stratégique du général de Gaulle, il y a cette idée qu'il faut une cohérence absolue entre le niveau politique, entre les 3 niveaux de la guerre, le niveau politique, le niveau stratégique et le niveau tactique. Et cette cohérence qu'il a voulu et dont il a souffert pendant la Première Guerre mondiale notamment, où il a regretté qu'entre 1915 et 1918, on n'ait pas exploité politiquement le succès d'un certain nombre d'offensives tactiques. Cette cohérence absolue, il l'a voulu notamment en décrivant, en créant la chaîne de commandement que vous venez de décrire. Et donc en France, on a cette capacité qui est, je pense, singulière à notre pays, qui n'a pas d'équivalent dans les autres démocraties occidentale, d'un président de la République qui est chef des armées et qui peut donc, sur très court préavis, pouvoir projeter ses forces partout où les intérêts français ou du droit international sont menacés.
Ce qu'on voit même aux États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas envoyer l'armée sans avoir au préalable l'accord du Parlement. Ce qui n'est pas le cas en France. On envoie d'abord, on discute après, mais une fois que l'armée a été mobilisée et envoyée.
Absolument, et ça s'est encore vérifié notamment au moment de l'opération Serval au Mali, où en 5 jours, on a projeté 5 000 soldats français pour répondre à l'attaque des djihadistes qui risquaient de fondre sur Bamako.
Alors, ce qui veut dire aussi, en termes d'intégration et toujours de rapport de lien nation-armée, qu'il faut que l'armée soit bien comprise par la population. Parce qu'on sait bien que le pouvoir fort, un des dangers, ça peut être après de tomber dans un abus de ce pouvoir. Donc, savoir aussi faire usage de l'armée à bon escient et avoir une confiance aussi de la population dans l'emploi des armées.
Oui, et à ce titre-là, je pense que... le lien armée-nation, en tout cas la légitimité d'une opération, elle se mesure aussi à la durée de cette opération. On sait aujourd'hui que l'unité de compte de nos opérations, en tout cas si on se réfère à l'ex-Yougoslavie, puis à l'Afghanistan et aujourd'hui au Mali, c'est la décennie. Donc il faut que pendant cette décennie où nos soldats sont engagés, dont certains meurent au combat malheureusement, il faut que ce lien soit entretenu. C'est le rôle du militaire, mais c'est avant tout le rôle du chef politique. Ceci étant dit, dans nos démocraties, moi je n'ai pas le sentiment que l'armée ait été, qu'il y ait eu une forme d'abus de pouvoir du président de la République sur l'envoi de ses forces. Je ne pense pas.
Il y a un autre élément qui est stratégique aussi pour la France et qui en fait un cas unique, c'est sa présence territoriale de par le monde. On a eu, il y a quelques jours, un référendum en Nouvelle-Calédonie qui s'est soldé par la continuité de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble français. C'est une dimension aussi que le général de Gaulle avait pensé. Alors, il a eu à gérer la décolonisation de l'Afrique, de l'Algérie, et donc, de fait, le passage à ce qu'on appelle maintenant les Outre-mer, ou les territoires d'Outre-mer, et donc à l'intégration de ces territoires, à la fois dans l'espace français, mais aussi en tant que force de projection française et point d'appui français de par le monde.
Oui, notre maillage de forces prépositionnées fait la singularité de l'armée française en Europe. Je pense qu'il y a deux spécificités qui font que l'armée française a la position qu'elle a aujourd'hui en Europe. La première, c'est son niveau d'engagement. Actuellement, on a 34 000 soldats français qui sont en permanence projetés soit sur le territoire national, soit à l'étranger. Ce qui est sans équivalent par rapport à nos alliés européens, notamment au sein de l'Union européenne. Et cette deuxième spécificité, c'est effectivement nos forces prépositionnées qui nous permettent de réagir très vite aux crises qui pourraient survenir ici et là, et notamment sur le continent africain.
Alors faire des prévisions, c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile, mais général de Gaulle, justement, dans son ouvrage « Vers l'armée de métier », essayait de penser l'évolution de l'armée, notamment avec l'introduction des tanks. Pour ce qui concerne l'armée de terre, qu'est-ce que vous voyez comme étant les grands enjeux, les grands défis qui vont peut-être faire évoluer l'armée de terre ou qui vont l'obliger à évoluer pour répondre à des évolutions techniques, à des stratégies? On parle beaucoup du cyber, par exemple, on parle beaucoup des liens entre l'air, la mer, la terre, enfin toute cette coordination. Quels sont pour l'armée de terre les principaux défis des années à venir?
Je pense que les principaux défis pour l'armée de terre, ce sont ceux d'ailleurs que répète le chef d'état-major de l'armée de terre très régulièrement. D'abord, c'est le défi de la haute intensité. Il faut que l'armée de terre, et les autres armées d'ailleurs, parce que je pense que ça n'est pas que le sujet de l'armée de terre, se prépare à pouvoir faire face à un conflit de haute intensité. Ce qu'elle n'a pas fait depuis la fin de la guerre froide. Donc, ce défi de la haute intensité, ça suppose deux choses. D'abord, ça suppose une masse critique pour être capable d'opérer dans la durée. Et puis, ça suppose une capacité d'intégration, ce que vous avez dit d'ailleurs, ce que vous avez souligné dans votre question. Une capacité d'intégration, c'est-à-dire une capacité d'intégration des capacités venues des autres armées. Le combat de haute intensité, c'est un combat interarmé. Toujours. Avec des capacités maritimes, des capacités aériennes, des capacités cyber, des capacités venant de l'espace exo-atmosphérique. Et donc c'est ça, le conflit de demain, c'est un conflit dans lequel il faudra se battre dans tous les champs, dans les champs physiques, terrestres, aériens et maritimes, mais aussi dans un certain nombre de champs plus immatériels, et notamment le cyberespace.
Et puis également la question des alliés. Vous soulignez, la France est unique en Europe. Alors, peut-être que nous sommes les seuls à vouloir faire l'effort d'entretenir une armée, ce qui coûte un petit peu. Et le général de Gaulle avait aussi cette question de l'OTAN. Alors, il n'a pas été contre l'OTAN, mais enfin, il ne voulait pas d'une France qui soit soumise au commandement général de l'OTAN. Et la même question aussi au niveau européen. On ne peut pas avoir une armée seule. On a besoin d'alliés, on a besoin de coopération. Mais cette coopération ne signifie pas une subordination, et on en revient à la question de la souveraineté, une subordination aux autres puissances.
Je pense que sur ce sujet-là, en tout cas pour le soldat que je suis, c'est presque un non-sujet. Et moi, le constat que je fais, depuis que j'ai participé à des opérations qui étaient toutes dans un caractère multinational, sauf la parenthèse du service action de la DGSE, qui est un monde particulier. Mais pour toutes les opérations que j'ai pu conduire au sein des forces, la multinationalité aujourd'hui, elle est bien comprise, elle est bien maîtrisée. C'est-à-dire que on est tous alliés parce qu'on a tous des intérêts communs. Néanmoins, il y a un certain nombre d'intérêts nationaux qui prévalent et qui se traduisent sur le terrain par l'envoi d'un certain nombre de capacités et par des règles d'engagement qui ne sont pas toujours communes à tout le monde. Mais ça n'est ni plus ni moins que ce que disait le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, lui, il croyait à la défense européenne, à l'OTAN. La seule chose qu'il disait, c'est simplement qu'il ne fallait pas ni sous-estimer, ni ignorer le fait national. Et effectivement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Finalement, ça renvoie à cette phrase connue du maréchal Foch qui disait à la fin de la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, « J'ai moins d'admiration pour Napoléon depuis que j'ai commandé une coalition. » Et c'est vrai, une coalition, ça n'est pas tous les alliés, le petit doigt sur la couture du pantalon et qui obéissent à un général qui a été désigné. Non, ça ne marche pas comme ça. Et croire que ça pourrait marcher comme ça, ce serait commettre des erreurs tactiques que l'on paierait cher. Donc la multinationalité, pour moi, ça n'est plus un sujet, parce qu'aujourd'hui on sait travailler avec des alliés, qu'ils soient européens, notre allié américain, qu'ils soient africains, en tenant compte de leurs impératifs nationaux.
Bien, merci beaucoup, mon général, d'avoir évoqué avec nous, alors, à travers ce livre, la pensée du général de Gaulle, mais aussi de l'actualiser pour les enjeux d'aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage « À coups d'épée », qui est paru aux éditions du Rocher. Les éditeurs ont l'habitude de retrouver l'ensemble des informations sur le site internet de Conflit. Et puis, je vous rappelle nos numéros en kiosque, notre numéro habituel, classique, qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation. Puis nous avons deux hors-série en kiosque, un qui est consacré au programme de géopolitique du baccalauréat et un autre sur l'aviation militaire. Tous ceux qui aiment l'aviation militaire, vous verrez de magnifiques photos et des textes aussi très intéressants. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera une excellente occasion de découvrir cet élément qui est essentiel, évidemment, pour notre puissance et notre armée. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.